Ce podcast est soutenu par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
À la limite, moi, je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement, franchement.
Calme-toi, t'as aucun intérêt à te
Faut pas éclater mes oreilles.
Ultime occasion de la rencontre. Oui,
ce hurlement, c'est le mien. Vous l'entendez, j'ai la voix qui porte, comme on dit. À moi aussi, mes potes ont eu plusieurs fois envie de me dire
« Faut pas éclater mes oreilles, hein. Pardon, faut pas rester ici. »
Comme il y a du sixième doigt. Surtout quand je les accompagne pour regarder des matchs de foot.
Ouais, puis vous avez pas le visuel parce qu'elle s'est bien roulée par terre.
Bah, je m'en souviens plus.
Ah bah attends, on va te le rappeler.
Oui, on a bien le ralenti en tête.
Là, vous entendez Clément, Robin et Tom qui étaient aux premières loges.
Bah, sur l'action, t'as sauté du canapé et t'as crié un « Vas-y !» Tu nous as tous niqué le tympan au passage.
Ouais, après tu lèves les bras comme si tu soulevais déjà la Coupe du Monde.
Bon, merci les gars. Je crois que tout le monde a l'image, hein. Et j'ai pas vraiment envie de me souvenir. De me souvenir de ce foutu match, de cette foutue Coupe du Monde que j'étais censée boycotter. Bah, comme toutes les personnes qui juraient qu'elles ne regarderaient pas une minute.
Tellement raté ce boycott. Les gens, ils étaient là il y a deux semaines. Il est hors de question que je regarde ça. C'est une honte pour l'humanité. Deux jours après, combien le score? Non, mais le score, je boycotte pas le score.
Le football ne me met pas toujours dans cet état. À l'origine même, j'y comprenais rien. Tout ce que je savais, c'est que je devais applaudir quand j'entendais le nom de ce joueur.
D'un tir de 20 mètres, Manuel Amoro surprend Bruno Martini.
Oui, oui, 1-1. Vous avez bien entendu, Manuel Amoro. Pourquoi lui? Ben, on est au début des années 90. Ma grande cousine Stéphanie est passionnée par l'OM. Enfin, surtout par le mulet de son gardien, Pascal Olmeta. Alors, elle ne nous laisse pas trop le choix, à ses deux petites sœurs et moi. 1. On doit supporter l'OM. 2. On doit choisir notre joueur chouchou. Olmeta, bien sûr, pour Steph. Papin pour Camille. Sauzé pour Nelly. Et donc, Amoros pour moi. À l'époque, ne me demandez pas de le situer sur le terrain. Moi, je trouve juste que son nom sonne bien. Amour, Amoros. Aussi simple que ça. Ne me demandez pas d'analyser ses prestations. Bon, je sais malheureusement que c'est lui qui rate le pénalty en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 91 contre l'Étoile Rouge de Belgrade.
Belgrade, au tir au but, l'emporte face à l'Olympique de Marseille. 5 tirs au but à 3.
C'est très, très, très dur.
Mais
c'est trop dur.
Pour vous dire à quel point je comprends ce moment de détresse, pour moi, la rencontre oppose des grandes étoiles rouges qui pourchassent les joueurs de l'OM pour les piquer. Bien heureusement, 2 ans après, lors du nouveau rendez-vous en finale de Coupe d'Europe, je comprends.
Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC, par 1-0. Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis!
Et oui, quelle soirée, mes amis! Cette fois-ci, je sens la ferveur et j'exulte comme des millions de supporters qui aujourd'hui encore revendiquent fièrement à jamais les premiers. Un an après, je suis prête. Prête à donner un tournant international à ma carrière de supportrice. 94, États-Unis, Coupe du Monde. Si, si, vous savez, celle où l'équipe de France a oublié de composter son billet.
Attention, Kostadinov.
Oh, but.
Oh,
à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes.
À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, quelle catastrophe.
10 secondes de la fin.
Pas grave, je supporte une autre équipe en bleu. Enfin, surtout un joueur.
Si fa vedere Roberto, si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio.
Ah, Roberto Baggio. Oui, encore un mulet et un joueur mythique dont l'immense carrière est marquée par une sombre histoire de pénalty raté.
Ce qui est sûr, c'est que si Baggio rate ce pénalty, le Brésil est champion du monde. Roberto Baggio, le Brésil est champion du monde.
Après avoir vécu ça...
On peut mourir tranquille.
Non, non, pas encore. Mais en tout cas, à partir de là, je me considère en avance. En avance. Mais sur qui ? Sur les autres filles. 4 ans après, en 98, je sais ce que ça représente de remporter une Coupe du Monde. La plupart de mes copines de collège, elles, n'en ont rien à faire jusqu'à la finale.
En France, les femmes et le football n'ont jamais fait bon ménage. Le mondial a donné un bon coup de balai aux idées reçues. 3 mois avant le premier match, 70% n'en avaient rien à faire. Mais la France gagne, alors un gradin comme un ministre, ça peut être aussi féminin.
Mais moi, je m'y intéresse déjà. Donc, je me démarque. Auprès de qui ? Auprès des garçons, bien sûr. Faut me voir. Toute fière, en pleine récré, réciter la liste des 22 d'Aimé Jacquet ou prouver que je connais les règles du hors-jeu. Une vraie pick-me girl.
Une quoi ?
Une fille pas comme les autres. Figure bien connue de la pop culture, le concept de Pick Me Girl, littéralement choisis-moi, désigne des femmes qui se revendiquent comme plus naturelles, moins pénibles, plus fortes, plus intelligentes que les autres filles. Ce concept renvoie à une femme cis hétéro, recherchant la validation des hommes en insinuant qu'elle n'est pas comme les autres femmes. C'est en tout cas la définition donnée par le webzine féministe Mademoiselle dans un article d'août 2023 de la rédactrice pop culture Maya Bukela intitulé « C'est quoi une pick-me girl ?». Pour aller un peu plus loin, citons aussi l'essai « Rivalité non féminin » de l'autrice féministe Racha Belmedi. Pour elle, la pick-me girl est problématique car elle se définit en opposition totale avec les autres femmes, n'hésitant pas à les dénigrer pour mieux montrer sa supériorité supposée. Oui, j'avoue que pendant les soirées foot, où je ne suis pas la seule fille, quand j'entends
« Ah non, mais moi, mais j'y connais rien au foot »,
j'ai le lever Dieu au ciel facile. Et ne me lancez pas sur ce que je pense lorsqu'il faut réexpliquer pour la énième fois...
Et pourquoi il y a corner ?
Ou encore, s'il faut répondre à un...
Mais il joue pas ce soir, Cristiano ?
Alors qu'on est devant Reims-PSG.
Sororité zéro pointé.
C'est probablement pire niveau validation des hommes. Oui, je confesse, j'ai un petit frétillement de satisfaction quand j'entends un...
Ah mais tu t'y connais en foot en fait ?
C'est encore arrivé il y a pas si longtemps. En terrasse. Deux mecs, là, allaient dégainer leur téléphone pour chercher l'ancien club de Jude Bellingham avant son transfert au Real Madrid. Je leur ai épargné une recherche Google en disant juste « Je crois que c'est Dortmund ». Faut voir comme ils étaient épatés. Je me suis fait beaucoup de potes comme ça, hein, mine de rien. Prenons Diego, par exemple. Bon, c'est pas son vrai prénom, hein. juste un clin d'œil à ses origines argentines. Le foot nous a fait passer de collègues à amis. Tout commence à l'été 2014. Diego et moi, on fait de la veille sociétale la journée et le soir, on descend des bières, les yeux rivés vers le Brésil. C'est là que se déroule la 20e édition de la Coupe du monde de football. La France éliminée en quart.
C'est fini. L'Allemagne est qualifiée. La France sort de cette Coupe du monde au Brésil.
Je me retrouve embarqué à supporter l'Argentine. Je chante à tue-tête.
La fille de Cimete se siente.
Alors que j'ai fait allemand LV2, comme vous pouvez l'entendre. Et à la fin, d'ailleurs, comme le dit la célèbre citation du joueur anglais Gary Lineker, c'est l'Allemagne qui gagne.
So at the end, do I really need to tell you the Germans won from all of us here?
L'empathie que je lui montre à ce moment-là scelle notre amitié. J'ai même droit à un message de remerciement de ceux qu'on reçoit quand on soutient un ami dans une épreuve douloureuse. Merci d'avoir soutenu la Selección Albiceleste avec nous. Jusqu'au bout, je te serai éternellement reconnaissant. Rien que ça. Tellement reconnaissant qu'il a coché mon nom pour un projet qui réunit trois choses que j'aime plutôt bien. De la radio, de la bière et du foot.
Radio, bière, foot ! La radio, de la bière et du foot.
Comme à beaucoup de trentenaires, nous raconter à coups de story Insta, tracé de running ou testimonial LinkedIn ne nous suffit plus. Alors, on a décidé de lancer un podcast sur le football. Parce que oui, on n'a jamais assez de production audiovisuelle dédiée au ballon rond. Notre conférence de rédaction, une bonne vieille conversation WhatsApp. Où, bien évidemment, je suis la seule représentante féminine au milieu de 5 mecs. Et ce rôle de schtroumpfette footeuse me tient à cœur. Bah oui, c'est important pour la Judith version ado. Elle serait tellement fière. Je l'entends qui s'émerveille là, au fond de moi. Et Teenage Judith n'est pas au bout de ses peines. Hein. Pas prête pour l'accueil du tonnerre auquel j'ai eu droit. Diego m'a présenté comme sa grande amie, l'encyclopédie et grande gueule du crew. C'est cool ça, non ? Alors, pourquoi j'arrive pas à trouver ma place ? Pourquoi moi, la soi-disant grande gueule, je reste silencieuse sur le groupe ? Voilà que ça me dérange d'être la seule fille entourée de mecs. Ça dérangeait pas la Judith de 10, 15, 20, voire même 30 ans. Mais là, je ne sais pas bien quoi partager quand un gars du groupe nous fait le récit de sa carrière footballistique avortée.
Bah moi, toutes les meufs voulaient mon chiffre, hein, tellement j'étais bon. Mais j'ai préféré renoncer pour des questions éthiques.
Version un peu imagée du traditionnel, j'aurais pu passer pro, mais les croisés, tu connais. Il y a bien un truc sur lequel mon avis aurait pu compter. Mais c'est précisément ça qui m'a fait quitter le groupe.
Celle qui va quitter le loft ce soir.
Eh ben, c'est Judith, ouais. Et pourquoi elle part, Judith ? À cause de cette phrase lancée par Diego.
Mais va changer de tampax, j'ai pas que ça à faire.
Phrase qui n'était pas à prendre personnellement.
Attention dans le public, si vous leur dites quelque chose à nos deux invités, elles sont extrêmement susceptibles. Méfiez-vous donc de ce que vous allez leur dire.
Et qui, d'ailleurs, ne m'était pas directement adressée. Mais bon. En tant que seule femme du groupe, je me suis sentie un peu visée. Syndrome prémenstruel, certainement. Je me suis peut-être excitée pour rien. Diego débattait juste sur le nom du meilleur joueur de foot de tous les temps. Et il voulait juste faire comprendre à son pote qu'il avait tort parce qu'il n'avait pas mis Maradona dans sa shortlist. En résumé, ça donnait un peu ça jusqu'à la référence au tampax.
Ah, fais pas chier, attends, toi aussi. Non, bah, t'as emmerdé.
T'as raison.
Pas me casser les couilles, non ?
Bah, t'as raison, Thierry. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, t'as tort. T'as tort à 200%.
Et ça, Je dois dire que je l'ai vécu comme une balle perdue. Non mais c'est vrai quoi ? On dénigre qui quand on sous-entend qu'un mec a ses règles ? Quelque part on lui dit « Tais-toi, tu n'es qu'une femme ». J'ai peut-être un peu raison de le prendre mal donc. D'ailleurs je leur dis « Les gars, sérieusement, c'est quoi votre sujet avec les tampax ? Moi j'en porte parce que oui, il m'arrive d'avoir mes règles. Donc, ça me disqualifie pour parler ? Je veux pas faire la relou, hein, mais c'est pas la première fois que je lis ça ici. En tout cas, ce sera la dernière. Parce que peu de temps après ça, je fais un rage quit, comme on dit dans le jargon du jeu vidéo. Traduction Wikipédia. J'abandonne une partie de façon théâtrale avec énervement. Je me suis carrément fendue d'un communiqué lapidaire expliquant les raisons de mon départ. Comme si ça allait changer la physionomie du groupe. D'ailleurs, personne ne m'a ni retenue, ni cherché à me faire revenir. Moi, qui plus jeune, caressais le doux rêve d'être journaliste sportive. Voilà, j'ai un aperçu de ce qu'a pu vivre la pionnière du genre. J'ai nommé Marianne Mako.
Pourquoi t'étais pas au Mondial ? Pourquoi on t'a pas vue au Mondial ? Pourquoi alors qu'il y avait 7500 reporters qui étaient là-bas, pourquoi t'étais pas là-bas, toi ?
Il y avait un peu, je crois qu'il y avait un peu de la politique ou de ma chaîne ou de mon service de pas, ils ont préféré, je sais pas, pas m'envoyer. Ils avaient un peu peur, c'est vrai qu'il y avait l'honnêteté de le dire, que de mettre une femme sur un événement de très haut niveau de football en se demandant si j'étais crédible à ce niveau-là. D'un autre côté, j'étais aussi employée et très employée régulièrement à Paris parce qu'il y avait une émission à faire. Il y avait une émission énorme tous les soirs du Club Mondial.
Tu bossais, oui.
Il fallait des gens pour le faire. Donc moi, j'ai travaillé dans cette équipe-là plus particulièrement. C'est vrai que j'avais le regret de ne pas y aller parce que j'étais allée au Mexique et qu'au Mexique 86, c'était fabuleux.
Et ouais.
Mais il y avait aussi l'équipe de France. Donc sans l'équipe de France, ça fait un peu moins mal de ne pas aller à la Coupe du Monde.
Et ça ne s'est pas vraiment arrangé. Hein. Voire même, ça a empiré. De nombreuses femmes journalistes sportives ayant l'audace de faire leur métier, en témoigne dans le documentaire « Je ne suis pas une salope » de la journaliste Marie Portolano en 2021.
J'ai envie de lui mettre profond à cette salope.
Elle a trop mangé cette pute.
Elle est prête à se faire prendre par toute l'équipe, cette chienne.
Mais quelle conne, heureusement qu'elle est bandante. Connasse, va les sucer dans le vestiaire.
Va falloir arrêter de parler de football, grosse pute.
Retourne dans ta cuisine, salope. Elle peut pas retomber enceinte, cette salope.
Ça se voit que je t'ai pas encore enculée.
On te viole, salope.
Voilà le genre de commentaires que nous recevons toutes. De vrais messages rédigés par de vraies personnes qui nous ramènent vulgairement à notre genre. Tu vois, c'est d'abord...
Dans mon cas, cette vulgarité s'est limitée à cette phrase que je rappelle « Va changer de tampax, j'ai pas que ça à faire ». Mais ça m'a quand même fait renoncer. Et j'ai pas envie, moi, de renoncer. Il y a tellement à faire dans ce projet Radio Bière Foot, là. Bon, il est toujours pas sur les ondes. Il est encore temps de retrouver ma place de titulaire, de redéfinir mon positionnement. Alors, quand je dis ça, certains pensent direct schéma tactique, 4-4-2, tiki-taka. Et chez d'autres, le mot positionnement va avec marketing, identité de marque, univers concurrentiel. Eh bien, figurez-vous que moi, ça m'évoque les deux. Je suis, comme on dit dans mon monde professionnel, une communicante. Et là, le concept qu'il faut repositionner, c'est moi. Traditionnellement, pour faire ça, on demande à une agence conseil en communication. Bon, moi, je vais redescendre d'un cran et demander à quelqu'un qui bosse en agence. Niveau budget, c'est un peu plus dans mes cordes.
Allô ?
Ouais, meuf. Bon, j'ai besoin de tes lumières. Si je te rémunère en bonne bouteille de rouge, est-ce que tu me prends un brief ? Bon, c'est un peu particulier. C'est pour refaire mon positionnement.
Ok, c'est quoi le besoin ? Est-ce qu'on cherche un coup d'un soir, de la compagnie pour l'hiver ou carrément les épousailles ?
Mais non, je te parle pas de ce positionnement-là ! Et puis, j'ai déjà réglé ça dans l'épisode 2. tu écouteras.
Ok, mais sur quoi t'as besoin de te positionner alors ?
Pas sûr, dans.
Oh yeah.
Mais non, pas comme ça. Dans un groupe WhatsApp ou parler football alors qu'on a ces menstrues, ça fait mauvais genre.
Quoi ? Bon, viens à la maison avec ta bouteille, m'expliquer, ça sera plus simple.
Vous avez entendu mon amie Pamela, directrice associée d'une grande agence de publicité. Un peu comme Amanda Woodward dans Melrose Place.
Amanda Woodward, vice-présidente de D&D Publicité.
Elle mène, je la cite, des rendez-vous d'inspiration pour transformer les signes émergents en opportunités. Bah, c'est bien ça. J'ai justement besoin d'inspiration pour saisir l'opportunité de réintégrer triomphalement le Boys Club.
Ah, te voilà. Merci pour la bouteille, bah, installe-toi. Alors, c'est quoi ton histoire de menstrue, là ?
Bon, je leur fais le pitch. Le podcast foot, le groupe WhatsApp et la phrase « Va changer de tampax, j'ai pas que ça à faire », ça m'a mise dans un état... Ah, ils ont dû prendre ça pour mon syndrome prémenstruel, hein ?
Il y a des colères qui sont parfaitement saines.
Ouais, enfin, je te connais, hein, t'as dû y aller soft. Finalement, à part devant un match de foot, j'ai très rarement vu ton côté Valkyrie.
Oui, mais là, tu vois, dans le groupe... J'étais sur le banc. Ambiance Dorasso 2006.
Et là, tu vas faire ton comeback en mode Zidane 2005. Oui, moi aussi, j'ai des refs.
T'as tout compris. Bon, comment je fais ?
Alors déjà, je me permets, ça va nous inspirer un peu. Bon, on a compris ton objectif principal, réintégrer le Boys Club. Mais je crois qu'il nous faut une promesse forte, un argument pour convaincre.
Tu vois, je ferais bien la promesse de pas péter un câble dès que l'un d'entre eux aura une petite réflexion un peu malheureuse, mais j'ai tellement envie de rire, de leur rire au nez, de leur dire « Vous blaguez sur les règles, mais est-ce que l'un d'entre vous sait vraiment de quoi il parle ? Pendant des années, on a gardé le secret. Oui, oui, en vous montrant du sang bleu dans les pubs. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. »
Ah bah c'est sûr que les budgets d'hygiène féminine, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Beaucoup sont tombés au champ du déshonneur, du sang menstruel.
Alors, je vous assure, hein, Pam n'exagère pas quand elle parle de déshonneur. Apparemment, c'est touchy de sortir du cadre. Celui qui fait la part belle au bleu de méthylène et aux femmes qui font des saltos pour prouver qu'on n'est pas tout au fond de nos lits, plié en quatre avec une bouillotte sur le bas-ventre. En 2010, par exemple, la marque américaine de produits d'hygiène Kotex a vu un de ses spots de pub censuré parce qu'il utilisait le mot « vagin ». Oui, apparemment, c'est dérangeant d'affirmer que lors des règles, le sang s'écoule du vagin.
Ah, vous pétez les plombs, vous devenez un transport vulgaire.
Et en France, on n'est pas moins frileux. 2018, la marque Nana souhaite remplacer le bleu par du liquide rouge sang. Finalement, pour ne pas choquer, la publicité sera diffusée uniquement en ligne. Et ce n'est pas qu'une question de pub. Même pour ceux qui conçoivent les protections hygiéniques, c'est apparemment pas si évident. Il a quand même fallu attendre 2023 pour que des scientifiques fassent des tests d'absorption sur des protections périodiques avec du vrai sang. 2023, alors que la première serviette hygiénique a été commercialisée en 1896. 127 ans d'attente, hein, quand même. Jusqu'alors, les tests étaient réalisés avec de l'eau ou du sérum physiologique. Et tenez-vous bien, l'expérience publiée par la revue médicale britannique BMJ Sexual and Reproductive Health ne donne pas des résultats totalement précis puisque le sang et le sang menstruel n'ont pas totalement la même texture.
Wow ! Alors, si tu veux réintégrer le groupe, je te déconseille de parler de sang menstruel. Bon, si c'est ce que tu veux faire, je nous resserre un coup parce que là, il va nous falloir une stratégie costaud.
Mais non, je vais pas faire ça. Mais bon, un peu d'éducation, ça leur ferait pas de mal. On serait pas les premières à essayer. la psychologue américaine Leta Hollingworth a ouvert la voie. Et je l'ai découverte grâce à la BD « Ils abusent grave » d'Erel Hanna et de Fred Chan, reçue pour mon anniv. Toute une partie est dédiée aux travaux de recherche de cette pionnière méconnue du féminisme et de la lutte pour le droit des femmes. Sa thèse de doctorat en psychologie, Functional Periodicity, An Experimental Study of the Mental and Motor Abilities of Women During Menstruation, publiée en 1914, m'a particulièrement interpellée. Dans cette étude, elle se base sur des données scientifiques pour démonter l'idée reçue sur la supposée incapacité mentale de la femme durant la menstruation.
Tiens donc, et en 1914, on disait aussi aux femmes « t'as tes règles ou quoi ?» pour se moquer de leurs émotions ou de leur opinion.
Ouais, ouais. Et pour expliquer aussi pourquoi elles foiraient les tâches domestiques. Genre, à cause de tes règles, t'arrives pas à faire monter une mayonnaise ou tu fais tourner la viande que tu touches. Pour débunker tout ça, Leta Hollingworth a observé 25 sujets, hommes et femmes, en leur faisant passer 3 séries de tests moteurs, cognitifs et de perception, pendant 3 mois. Et contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de preuves empiriques d'affaiblissement de performance chez les femmes pendant leurs règles. Rocio Subias Martinez, doctorante en études hispaniques et hispano-américaines, détaille cela dans sa publication « Stéréotypes, la menstruation, mesdames, vous rendez folles, mais irresponsables pénalement ». Elle explique le fond de la démonstration de l'État qui reproche aux hommes, historiens, médecins, avocats, philosophes, romanciers et éducateurs, d'avoir osé écrire à foison sur ce sujet sans avoir une connaissance profonde ni des bases scientifiques solides, ainsi que de ne pas avoir hésité à profiter au maximum des avantages que leur procuraient les déclarations sur l'incapacité mentale et motrice des femmes. Elle accuse la presse d'avoir exploité le sujet à ce moment-là comme un argument pour ne pas octroyer la liberté politique aux femmes ou le droit de vote. Elle reproduit ainsi un article du New York Times daté du 28 mars 1912. Aucun médecin ne peut jamais perdre de vue le fait que l'esprit d'une femme est constamment menacé par le danger des manifestations de ses urgences psychologiques. C'est depuis cette perspective que le médecin doit considérer la suffragiste militante. Il ne peut point ignorer le fait qu'il y a un tel désordre mental chez la femme, il ne peut donc faire fi des urgences physiologiques subjacentes.
Hop, 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 danger des manifestations de ces urgences physiologiques, désordre mental, mais la violence. Non mais attends, c'est cette violence que t'as ressentie quand t'as lu la phrase « va changer de tampax, j'ai pas que ça à faire » dans ton groupe WhatsApp là ?
Un peu, oui. Attention, hein, ce n'est pas comparable avec la lutte pour l'obtention des droits de vote. Mais en repensant à « va changer de tampax, j'ai pas que ça à faire », j'ai envie de lui dire que nous non plus on n'a pas que ça à faire, mais qu'on y est bien obligé, parce que ça impacte de nombreux pans de notre existence. Et là, je vais parler chiffres. 1 sur 2. C'est la proportion de filles en France qui déclarent avoir dû rester à la maison et manquer l'école ou le travail en raison de ces règles. C'est ce que dit un sondage de Opinionway pour Plan International en 2022. Dans les pays en développement, on monte en moyenne à 5 jours d'école manqués tous les mois. Une semaine entière de cours en somme. 3119 euros. C'est ce que m'ont coûté mes règles depuis que je suis menstruée. Pour arriver à ce chiffre, j'ai utilisé la calculatrice mise à disposition par le site Les Décodeurs du Monde. Le calcul prend en compte leur durée, le type et le nombre de protections utilisées pendant mon cycle, leur prix moyen et les dépenses médicales associées. Antidouleurs, gynéco... 3119 euros et c'est pas fini en plus. Et ces frais, eh bien, c'est pas tout le monde qui peut les assumer. 15% c'est le pourcentage de femmes réglées qui disent qu'elles ne disposent même pas assez de protection hygiénique pour elles-mêmes ou leurs filles. C'est ce que met en avant le baromètre Hygiène et précarité 2023, réalisé par l'IFOP pour l'association engagée contre l'exclusion sociale, dont Solidaire. Cette proportion est en forte progression. Ce pourcentage de femmes en situation de précarité menstruelle était à 9% en 2021. Alors, les pouvoirs publics ont fait plusieurs annonces de dispositifs pour lutter contre la précarité menstruelle. Dans certains collèges, lycées et facs, les protections sont désormais accessibles gratuitement. En mars 2023, quelques jours avant la Journée internationale des droits des femmes, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le remboursement par la Sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de 2024 pour toutes les femmes de moins de 25 ans. À cette époque-là, sur X, anciennement Twitter, j'ai vu passer des tweets railleurs.
Et pourquoi pas rembourser le PQ pendant qu'on y est ?
Bah, précisément, pourquoi pas, oui. Figurez-vous que parmi la population de femmes qui se déclarent en état de précarité menstruelle, 15% je le rappelle, 11% déclarent avoir eu recours à des produits de substitution. Et précisément, dans cet échantillon, 75% de ces femmes qui déclarent avoir utilisé autre chose que des protections hygiéniques faute de moyens se sont tournées vers le papier toilette, mouchoir ou serviette en papier. Et si l'on recentre le sujet sur le sport, puisque c'était quand même l'objet du groupe WhatsApp, une enquête mondiale de 2022, commandée par l'équipementier Puma et Modi Body, une marque de culottes menstruelles, révèle qu'une adolescente sur deux a arrêté le sport en raison de la douleur de leurs règles ou à cause des temps redoutés, fuites et taches. Pour que vous vous fassiez une idée de la manière dont peuvent s'exprimer ces craintes, je vais juste reprendre les paroles de l'athlète française Renelle Lamotte, spécialiste du 800 mètres. À l'issue de sa demi-finale aux Mondiaux d'athlétisme de Budapest d'août 2023, elle a dit « C'était mon premier jour de règles et ce premier jour est très compliqué. Sur la ligne de départ, j'avais envie de péter. C'était chaud. Je suis ballonnée, j'ai pris plus d'un kilogramme d'eau cette semaine, donc je ne me sentais pas trop en forme. J'avais mal au ventre, j'étais en stress, car j'avais peur qu'on voit mon sang qui coule dans mon slip. Ce sont des choses que le public ne sait pas, mais qu'on doit gérer. » Alors, je crois qu'on ne peut pas faire plus imagé et plus sincère sur ce qu'on ressent ces jours-là. Que l'on soit sportif de haut niveau, élève ou comme moi, employé de bureau.
Judith, plus je t'écoute et plus je pense à certaines recours que je fais à des clients au boulot.
Ah ça y est ! T'as enfin une piste pour mon positionnement.
Ouais, et en fait, c'est tout simple. Garder ta vraie nature et ton ADN de marque.
Mon ADN de marque ? Bah, c'est quoi mon ADN de marque ?
Bah, ton ADN de marque, c'est d'être toi. C'est d'être une femme et de pas passer ton temps à éduquer des mecs à mieux parler de règles. Tout ça pour te faire accepter dans un groupe WhatsApp consacré au foot. Non mais ils ont pas que ça à faire, ils ont pas que ça à faire. Attends, toi non plus, nous non plus. Et il est temps qu'on leur dise.
Mais t'as raison. Mais merci, Pam. Bon, avant de me lancer, j'ai besoin d'un peu d'inspiration.
J'avais pas que ça à faire que de hurler « Mais monsieur, je ne peux pas retenir mes règles » à mon prof de sport quand il a refusé de me laisser aller aux toilettes en me disant juste « T'as pas 3 ans, ça peut attendre la fin du cours, non ?»
Vous avez entendu Julia qui nous donne l'une des multiples raisons qui font qu'une fille sur deux loupe les cours pendant ses règles.
J'avais pas que ça à faire que de dire à une policière qu'elle pouvait proposer à la jeune femme qui était à côté de moi de se rendre aux toilettes. Un jour, j'étais au tribunal pour récupérer ta tante, qui était en délicatesse de papier. Une jeune femme était elle aussi en délicatesse, puisqu'elle se vidait littéralement, assise sur une chaise, comme ça, au milieu de tout le monde. C'est impossible de ne pas se rendre compte. Et pourtant, juste parce qu'elle n'avait pas de papier, on ne lui a même pas donné le droit d'aller se changer.
Et oui, les hommes aussi peuvent parler des règles. Bon, celui-là, il a l'avantage d'être mon père. Et cette histoire qu'il m'a racontée il y a quelques années m'a tellement marquée que j'ai eu envie qu'il la partage ici aussi. Et enfin, moi non plus, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire d'essayer de réintégrer un projet de podcast où j'ai pas forcément ma place. Parce que, finalement, cette petite phrase-là, aussi offensante soit-elle, m'a aussi fait prendre conscience que moi aussi, j'ai des choses à dire. Et que je peux les dire dans un podcast en solo. Donc, quelque part, gracias Diego, comme ça a été si joliment dit, un jour de quart de finale en 86. Vous venez d'écouter « Faut pas éclater mes oreilles » épisode 3. Merci à tous ceux qui m'ont prêté leur voix, à ma Golden Zouz Pamela, à ma bande Ligdèche Tom, Robin, Clem et Guiche, à ma bande du bar Le Festive Félix, Nico et Louison. Merci à Julia et à mon papa pour leur témoignage. Et puis enfin, merci à Maceo du studio All Sounds et à Vincent Berthe de chez So Good.